Voyons le menu, disait Machot gaiement, tandis que les chaises achevaient de se ranger, les serviettes de se déplier, et que s'établissait l'espèce de silence dont s'accompagne tout début de repas. J'ai deux assauts dans le bras. Et il fit saillir les muscles de son biceps sous le mince lasting de son habit d'été. Ah, j'ai tiré avec un gaucher de régiment. Ce que j'ai eu de mal, Christy, je voudrais bien trouver le fleuret qui touche tout seul. Il rit très haut de sa plaisanterie, puis consultant le menu. À la bonne heure, voilà un dîner qui a du bon sens. Et il détailla les plats à voix haute. On pourra manger, mes compliments, Figon. « Faites-les au maître, » dit Figon en montrant sa veuse. « Mon Dieu, » répondit ce dernier, « c'est si simple. Il s'agit, dans ces mois-ci, de trouver des animaux dont la chair ne soit pas tourmentée par l'amour. Le bœuf, il ne l'est plus. Le dindonneau, il ne l'est pas encore. C'est la base de ce menu, et pour le reste, il suffit d'un peu d'idées et de venir en causer soi-même avec le chef. « En aurais-tu à me recommander ?» interrompit Christine. « Si je me marie, il m'en faudra un. »« Bon, » fit Gladys en se penchant vers moi. « Elle va vous raconter qu'un prince lui a demandé sa main et qu'elle hésite. »« Et de l'autre, » ajouta-t-elle en me montrant d'un clignement, Toré qui, placé à sa droite, grimaçait sataniquement. « Le vieux me fait le genou. Il pense à sa duchesse. « You are very violet fellow, » cria-t-elle à l'anglomane en lui donnant un coup d'éventail. Mais chasse gardée. Puis, après quelques minutes où la conversation s'était faite générale, « Vous connaissez Jacques Molland ?» m'a raconté Louis, interrogea-t-elle. « Je l'ai beaucoup connu autrefois, » repris-je. « Il m'a même dédié son premier roman. »« Je sais, » fit-elle, « cœur brisé. Ah, que j'ai aimé ce livre !» Ses yeux devinrent profonds et songeurs. Il y eut un silence entre nous. Je ne serais pas digne du nom d'homme de lettres si je n'avais pas éprouvé, ne fût-ce qu'une seconde, la petite impression de contrariété du trissotin qui entend louer un vadius. Quoique nous ne nous voyions plus, Jacques Molland et moi, depuis des années, qu'en passant et sans jamais causer de rien d'intime, j'ai gardé un souvenir de sympathie à cet ancien ami. Je goûte son talent, bien que sa manière douloureuse, tout en raffinements et en complications, ne me satisfasse guère, aujourd'hui que j'ai renoncé à ce que nous appelions ensemble les névroses des adjectifs. Je suis prêt à écrire 10 articles pour démontrer que Jacques excelle à entremêler la finesse de l'étude de mœurs faite d'après nature à la sensibilité la plus fine. Oui, je ferai son éloge de tout cœur et sans rien trahir de mon secret jugement sur les défauts de cette nature. À l'heure présente, Jacques est devenu le plus sec et le plus menteur des hommes. Il ramène cette sensibilité comme les gens chauves ramènent leurs cheveux. Le besoin de l'argent et celui du tapage sont les deux seules passions demeurées sincères chez cet artiste et puisées de succès, comme d'autres le sont de misères et de désastres. Il y a dans toutes les pages sorties de la plume de ce romancier sentimental un fond de cabotinage qui me gâte tous ses effets de style et une mièvrerie qui répugne à toutes les virilités dont je suis épris maintenant. Le malheur est que cette lucidité sur les défauts de Jacques s'accompagne chez moi d'une espèce de mécontentement qu'il ait tant réussi, dont j'ai un peu honte. Que ce soit mon excuse, pour n'avoir pas accueilli avec plaisir l'enthousiasme de ma jolie voisine. Enfin, puisque j'ai eu le bon goût de me taire, je la regardais rêver maintenant, la musique des tziganes montait, plus enivrante à mesure que les musiciens s'enivraient eux-mêmes en jouant. La nuit était tout à fait venue et les feuillages des arbres se découpaient sur un ciel noir où perçaient les étoiles. Les convives bavardaient gaiement et Saveuse commençait de raconter que le matin même, il avait rencontré, dans les couloirs d'un grand hôtel meublé, une certaine Madame de Forget. Je suis demeuré naïf sur ce point. Je continue à ne pas comprendre la facilité avec laquelle certains viveurs à Paris déshonorent une femme dont ils ont surpris le secret. L'habitude aidant, j'espère m'y faire. Et Saveuse parlait. « Voilà qui est piquant, me dis-je. Et si j'avais mis la main sur un paquet ?»« Elle, une sainte, et qui ne veut pas me recevoir sous le prétexte que je ne respecte pas les femmes, elle ne m'avait pas vue. Je grimpe l'escalier derrière elle, je la vois disparaître derrière une porte sans même frapper, je regarde le numéro, je descends et je vais consulter la liste des voyageurs affichée en bas. Aucune mention du dit numéro, bien entendu. Ma curiosité fut si fort piquée que j'attendis là 5 gros quarts d'heure d'horloge à la porte de l'hôtel. Au bout de ce temps, elle reparaît. Je la salue avec un respect, elle me salue avec une dignité. Mais 10 minutes plus tard, qui voyais-je déboucher par cette porte d'hôtel ? Devinez. Laurent, qui a la sottise de rougir comme un collégien et de me raconter là, tout de suite, sans que je le lui demande, qu'il est venu rendre visite à des parents de province. Et pour couronner le tout, ce grand niais de Morène qui me dit au cercle, comme on venait de prononcer le nom de la forgée, « Savez-vous que cette pauvre jeune femme a encore passé 2 heures aujourd'hui dans un hôpital ? Elle se tuera à soigner les malades. »« Je les reconnais bien, là, vos femmes du monde !» dit Christine. « Et moi, les hommes du monde !» fit Machaut en montrant Saveuse avec un air d'entier mépris qui me réconcilia pour toujours avec le brave escrimeur. L'intonation avait été si insolente qu'il y eut un froid. Saveuse sourit comme s'il n'avait rien entendu, et tout à coup Gladys, qui avait été dans la lune, comme le lui dit Figon, se tourna vers moi de nouveau et me demanda « Quel homme est-ce au juste que Jacques Molland ?»« Bon !» s'écria Christine, « Gladys qui parle littérature. L'archer, demandez-lui de vous montrer sa jarretière. Elle y fait broder comme devise le titre du dernier roman dont elle s'est toquée. Est-ce vrai, Gladys ?» « Parfaitement vrai !» dit cette dernière en riant. « Vous voyez, ajouta-t-elle en s'adressant à moi, que si jamais vous voulez peindre le demi-monde, il ne faudra pas me prendre comme modèle. Je suis une trop mauvaise cocotte. Que voulez-vous ? Voilà à quoi je pense, au lieu de chercher des vieillards à plumer ou de petits jeunes gens. » Et s'adressant à Christine, « Qu'a-t-on fait à la bourse aujourd'hui ?» Christine haussa les épaules en souriant d'un mauvais sourire. « Oui, quel homme est-ce que Jacques Molland ?» insista Gladys. « Demandez-moi plutôt quel homme c'était, répondis-je. Depuis 2 ans, je ne l'ai pas vu 5 fois. »« On change si peu, » fit-elle avec un gentil hochement de sa tête. « Regardez Thoré. » Le vieux maniaque entendit son nom et cligna de l'œil. Le fait est qu'en ce moment, la lumière jouait sur sa teinture blonde et que l'espèce d'éclat fauve de ses cheveux rendait irrésistiblement comique les laideurs de son masque vieilli. Tout lui étant lui d'un éclat grotesque, son teint allumé par les libations auxquelles il se livrait sans rien faire que prononcer un monosyllabe de temps à autre, sa lèvre mouillée, le plastron de sa chemise et le revers de satin de son habit. La conversation avait repris son cours. Saveuse racontait une nouvelle histoire en surveillant du regard Machaut qu'il s'entonnait du champagne et, par moments, riait très haut. Figon baissait et relevait ses paupières, suivant l'occurrence, avec le sérieux qui le rend si comique. Christine écoutait Saveuse et piquait de ci de là une interruption. Moi, tout en débitant sur mon ancien camarade de bohème des phrases d'article, j'admirais comme Gladys me posait par instant des questions qui témoignaient d'une lecture assidue des romans de Jacques. Cœur brisé, anciennes amours, blanches comme un lys, martyr intime. Elle savait par cœur ses œuvres, aussi maniérées que leurs titres. Cette fois, mon envie n'eut pas de borne. Évidemment, cette fille était devenue amoureuse folle de l'écrivain à travers ses livres et elle ne m'avait fait inviter par Figon que pour me demander sans doute de lui ménager un rendez-vous avec l'objet de son culte. Je n'en doutais plus lorsqu'au dessert, elle posa sa serviette devant elle et dit « Ah, que j'ai chaud ! Monsieur Larcher, voulez-vous me tenir compagnie un petit quart d'heure sur la terrasse ?»« Ah » fit-elle quand nous fûmes accoudés sur la balustrade parmi les feuillages et tandis que le rire de nos compagnons abandonnés nous arrivait à travers les fenêtres. « Quelle vie ! Et qu'ils sont bêtes ! J'ai un de mes petits amis qui m'appelle toujours sa pauvre beauté. Beauté, je ne dis pas, mais pauvre ! Ah, que c'est vrai !» Elle prit une rose qu'elle avait piquée à son corsage au commencement du dîner et se mit à en mordre les pétales avec colère en fronçant le sourcil. Au-dessous de nous, les tables dont nous apercevions les blanches nappes à travers la verdure retentissaient d'un bruit de fourchettes et de couteaux. Les tziganes continuaient de jouer et Gladys, après avoir jeté la rose défeuillée à terre, reprit en s'éventant doucement « Je vous ai dit que j'étais une mauvaise cocotte et voilà que je vous parle comme au premier acte de la dame. Est-ce assez peu dans la note, une femme habillée par la ferrière, dont les journaux parlent en l'appelant la belle Gladys, qui va au bois avec des chevaux à elle, à qui l'on vient de payer ses dernières dettes et qui se plaint ? Et tout cela parce que j'ai pensé à mon histoire avec Jacques Molland. Ne me regardez pas en ayant l'air de me dire « Mais alors, pourquoi me demandiez-vous quel homme c'est ?» Toute cette histoire s'est passée là. Elle se toucha le front avec la pointe de son éventail. Et là ! Et elle mit ce même éventail contre son cœur. Je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, je ne lui ai jamais écrit. Et pourtant, c'est tout un petit roman. « Voulez-vous que je vous le conte ? » demanda-t-elle en me coulant un regard de côté. Il était un peu trop visible que tout dans cette partie fine avait été organisé en vue de ce mot-là, depuis l'invitation de Figon jusqu'à l'appel sur la terrasse. Mais ce qui me fit lui pardonner la ruse de cette petite mise en scène, c'est qu'elle en avait un peu honte et aussi qu'elle me l'avoua ingénument. « Oui, dit-elle comme répondant à ma pensée, quand j'ai désiré vous voir, c'était un peu pour cela, mais si je vous avais trouvé mon cœur, vous n'auriez rien su. Que voulez-vous ? Je sens que vous êtes bon et que nous serons amis. » J'étouffai un soupir sous prétexte de lancer une bouffée du cigare que je fumais. Ce n'était pas tout à fait le rôle auquel je m'étais préparé que celui de confident. Mais le naturel de cette fille, l'espèce de poésie qui se dégageait d'elle dans ce milieu si contraire à toute poésie, l'originalité de cette confession sentimentale dans ce décor, avec ses viveurs à côté, cette nuit douce, le bruit des dîners et des voitures mêlés à la musique des tziganes, tout contribuait à me rendre aimable ces quelques minutes, et ce fut de bonne foi que je pris la petite main de Gladys et que je la lui serrai en disant « Moi aussi, je crois que nous serons amis. Dites votre roman et n'ayez pas peur. Je ne me suis jamais moqué que de moi-même. » J'avais 20 ans, commença Gladys après s'être recueillie. Je redoutais ce début comme celui d'un récit appris par cœur. Mais non, tout de suite, je vis que ses souvenirs affluaient en foule et la troublaient. Elle les avait devant elle et non plus moi, et elle continuait. J'avais 20 ans, il y a des jours et des jours de cela. Ne me faites pas de compliments, beaucoup de jours. Comptez 11 fois 365. Je vivais à Paris et j'étais sage, très sage. J'habitais avec ma sœur aînée, ma belle. C'est depuis qu'elle est morte que je suis devenue ce que je suis. Comment nous étions venues à Paris, toutes deux seules, malheureuses petites créoles, presque de petites négresses blanches, ça c'est un autre roman, celui de ma vie. Mon père était un ingénieur anglais qui avait fini par aller chercher fortune au Chili. Là, il avait rencontré ma mère, une octavone. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de sang noir sous ses ongles. Et elle les fit briller à la lumière de mon cigare comme des chatons de bague. Mais il y en a tout de même. Après des hauts et des bas, nous avions tout perdu. Nos parents étaient morts et nous étions ici pour recouvrer une créance sur le gouvernement français. Mon père avait travaillé pour vous aussi. Pauvre père, a-t-il eu du mal dans sa vie et pour que sa fille préférée fût la Gladys qui vous raconte toute cette histoire ? Enfin, nous vivions comme je vous ai dit, Mabel et moi, et nous n'avions pas un sou, pas ça. Insista-t-elle en faisant craquer son ongle contre une de ses dents, dont la nacre brillait entre ses lèvres fraîches. Toutes nos misérables ressources avaient été mangées. La créance, chimère, et nous vivions... Comment, aujourd'hui que je dépense 60 000 francs par an rien que pour ces chiffons ? Et elle battit ses jupes souples de sa main et avança son pied. Je me demande comment nous ne sommes pas mortes de faim, de froid, de dénuement. Pensez donc, Mabel avait trouvé une place d'aide à la vente dans un bureau de tabac sur les boulevards. Elle n'avait pas voulu que je l'acceptasse. « Non, tu es trop jolie, m'avait-elle dit, et je tenais le ménage. Ne le dites pas à Figon, ajouta-t-elle en riant. Il me diminuerait s'il savait que ses mains, et elle les montra encore, ont fait la cuisine chez nous pendant 2 ans. Nous occupions 3 petites chambres dans une impasse derrière Saint-Philippe-du-Roule. Et je travaillais aussi, à quoi ? À ces petits ouvrages de femme que l'on peut faire sans avoir appris de métier. J'ai brodé, j'ai bâti des robes de poupée, j'ai assorti des perles, j'ai donné quelques leçons d'anglais et aussi fait des traductions de romans, moi, Gladys Hervé. Elle prononça ces mots comme Louis XIV disait, moi, le roi. Et à travers tout cela, j'avais le temps de me parer. Je n'ai jamais été aussi jolie qu'alors, avec une certaine robe que j'avais coupée et cousue moi-même. Je la vois encore toute bleue et qui fut perdue en une fois parce que je l'avais mise pour sortir par une après-midi de dimanche au printemps. La pluie nous prit en plein bois de Boulogne et nous n'avions pas sur nous, Mabel et moi, de quoi seulement entrer à l'abri dans un de ces cafés qui se trouvent de ce côté-là. Quand je passe dans mon coupé le long de cette allée et que je me souviens de mon désespoir, croyez-vous que je regrette cette bonne misère et nos dîners en tête-à-tête ces dimanches ? Une semaine sur deux, Mabel avait un jour de congé et c'était alors, dans notre petite salle à manger, une fête à ravir nos bons anges. 2 chaises de paille, une table de bois blanc que nous couvrions d'une serviette et nous restions des heures à causer longuement, doucement, à nous sentir si près l'une de l'autre dans cette grande ville dont nous entendions la rumeur qui nous rappelait le bruit de la mer, là-bas, pouvions-nous dire dans notre pays, puisqu'il ne nous y restait plus rien, rien que de si tristes souvenirs. Oui, c'était de bonnes heures, mais trop rares. J'étais trop seul. C'est ce qui m'a perdu. Et puis, voyez-vous, avec mes airs de me moquer de tout, que je prends si souvent, il n'y a pas plus rêveuse que moi, ou plus gobeuse, un mot que vous n'aimerez peut-être pas, mais il est si vrai. J'ai toujours eu un coin vert dans le cœur, et dans ce coin vert une marguerite, que j'ai passé des heures à effeuiller, vous savez, comme les petites filles. Il m'aime un peu, passionnément, pas du tout. Eh bien, Jacques Molan a été ma première marguerite. Voici comment. Je vous ai dit que je faisais quelques traductions de romans anglais. Cette besogne m'avait mise en rapport avec un cabinet de lecture de la rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ai bien pris 300 volumes de la collection Tauchnitz. En ai-je dévoré de ces récits où l'on boit des tasses de thé à chaque chapitre, où il y a un vieux gentleman qui prononce la même plaisanterie avec le même tic dans sa physionomie, où la jeune fille et le jeune homme se marient à la fin, après s'être aimés gentiment, convenablement, durant 3 tomes. Et je dégustais cela comme les rôtis que je me beurrais moi-même, à l'imitation des héroïnes, pour mon déjeuner. Jugez maintenant de l'effet que dut produire sur une pauvre petite Anglaise sentimentale, qui n'avait jamais ouvert un livre français, la lecture de ce cœur brisé dont nous parlions tout à l'heure. Pourquoi je demandais ce roman-là plutôt qu'un autre ? À cause du titre, peut-être, et puis je suis fataliste, voyez-vous. Il était dit que ce serait là ma première folie. Car c'en fut bien une que cette lecture. Je la commençais à 2 heures de l'après-midi en rentrant de mes courses. À la nuit, j'étais encore là, ayant oublié de me préparer à dîner et le ménage à finir, et que j'étais la sœur de Mabel, la fille du malheureux Hervé, l'inventeur et tout le reste. J'étais devenu les personnages de ce livre. Vous vous souvenez de la lettre que la femme abandonnée écrit avant de mourir ? Ma beauté, elle s'est fanée à te pleurer, sans que tu aies eu pitié ni d'elle ni de moi, mon doux bourreau. Ai-je assez lu et relu cette lettre en fondant en larmes ? Aujourd'hui que j'ai vécu et que je comprends ce qui s'est passé en moi à cette époque, je ne peux pas mieux expliquer mon bouleversement d'alors qu'en vous disant que j'ai eu le coup de foudre pour ce livre, comme j'ai vu d'autres femmes l'avoir pour un son de voix, pour un regard. Vous souriez ? Ah, vous autres écrivains, si vaniteux que vous soyez, vous ne le serez jamais assez. Si vous saviez ce qu'un de vos livres peut devenir pour une enfant de 20 ans qui n'a rien vu et qui vous aime à travers vos phrases. Oui, qui vous aime. Mais comment y croiriez-vous ? Il y a tant de curieuses et de menteuses qui vous jouent la comédie de ces sentiments-là pour avoir un autographe ou pour raconter qu'elles vous connaissent. Pauvre nous, interrompis-je. Mais la femme qui entre en relations épistolaires avec un auteur, il n'y en a qu'une, jamais qu'une. Votre Jacques et moi, nous étions très fiers à une certaine époque d'une inconnue avec qui nous entretenions une correspondance suivie. Quelle tuile quand nous nous sommes montré nos lettres et que nous avons constaté que c'était la même écriture et la même personne. Voilà pourquoi, reprit Gladys, je n'écrivis pas à Jacques. J'avais un pressentiment de cela. Je n'ai qu'une vanité, c'est d'être très femme, avec un peu de ce doigté du cœur qui nous fait accuser de ruse quand nous ne sommes que fines. Mais je le lus et je le relus, comme je vous dis, ce roman, et à chaque lecture, mon intérêt pour l'auteur de cet adorable livre grandissait jusqu'à devenir une véritable obsession. Comme il devait avoir l'âme délicate pour peindre ainsi la souffrance, l'histoire racontée dans ce livre était-elle la sienne? Était-ce lui, le doux bourreau que la victime bénissait en mourant de son abandon? Avait-il été aimé ainsi jusqu'à la mort? Et puis, un repentir dernier l'avait-il conduit à suspendre ce roman à la croix d'une morte, comme une couronne de roses à demi fanée? Ou bien des confidences reçues, une correspondance trouvée, un journal intime, lui avait-il permis de découvrir le secret martyr dont il s'était fait le poète? Car d'admettre que ce fût là une œuvre d'imagination, je ne le voulais pas et je me figurais mon romancier à l'image de mes désirs. Il devait être jeune, pâle, avec des yeux bleus et quelque chose d'un peu souffrant. Vous riez maintenant, que vous auriez ri davantage si vous m'aviez vu debout à la devanture d'un marchand de photographie dans la rue de Rivoli le jour où j'y vis son portrait. Je dus y retourner trois fois avant d'oser entrer dans la boutique pour l'acheter, ce portrait qui ressemblait par bonheur à l'idée que je m'en étais faite d'avance, assez du moins pour que mon enchantement d'imagination ne fût pas brisé. À la même époque, on publia une biographie de lui avec une charge. J'aurais battu celui qui avait déformé ce visage dont j'étais devenue aussi amoureuse que du livre. Que voulez-vous ? C'est le sang nègre, il y a de l'esclave en moi, et quand j'ai aimé, j'ai toujours sorti tout mon noir. Je l'ai quelquefois plus mal placé que cette fois-là. En lisant cette biographie, un projet fantastique s'ébaucha dans ma tête. Je vous ai dit que j'étais trop seule. Je causais trop avec moi-même et je ne me suis jamais donné que des conseils bien fous. La brochure racontait que mon grand homme habitait une partie de l'année à Vélizy, un hameau près de Chaville, et qu'il avait là, justement, la petite maison décrite dans Cœur brisé. J'appris aussi par cette brochure qu'il n'était pas marié. S'il avait été, je n'aurais plus pensé à lui, je vous le jure. J'étais tellement innocente, comme dit la chanson, que je ne comprenais presque rien, toujours comme dans la chanson, sinon que jamais Jacques Molland n'aimerait une pauvre fille comme moi dans son sixième étage avec ses malheureuses toilettes de 4 sous. Ah, si j'étais une de ces dames, comme il en décrivait dans son livre! Et voilà comment j'en arrivais à concevoir ma grande idée, économiser centime par centime, franc par franc, de quoi m'habiller aussi joliment que les élégantes que j'allais quelquefois voir passer aux Champs-Élysées dans leur voiture, et ensuite me présenter à Jacques Molland sous un faux nom, comme une jeune femme qui vient lui demander conseil. Où me mènerait cette équipée? Je n'en savais rien. Je ne me le demandais pas. J'ai feuillé la marguerite, voilà tout. Il m'aimera un peu, passionnément, pas du tout. Et je restais toujours sur le pétale, il m'aimera, sans rien savoir, sinon que ce mot, associé à l'idée de cet homme pourtant inconnu, me représentait quelque chose d'infiniment doux, de si pur, de si tendre. Je le verrais une fois, puis une autre encore. Je me dirais mariée pour qu'il ne cherche à point à connaître mon vrai nom. Étais-je assez la petite Anglaise du roman que je traduisais? Pourtant, je lui avouerai mon prénom. J'étais naïvement fière de sa rareté, comme de mes cheveux qui me tombaient alors jusqu'ici, et elle étendit son bras dans toute sa longueur. Enfin, ce fut un roman à propos d'un roman dont je ne soufflais pas un mot à la sage Mabel, comme vous pouvez croire, et que je menais à bien, de quelle manière, par quel prodige d'économie, par quelle ruse, pour cacher les divers objets de parure que je dus me procurer un par un, depuis les petits souliers vernis et les bas de soie noire, jusqu'au chapeau, sans parler de la robe. Il me fallut 10 mois, vous entendez, 10 mois pour ramasser mon magot et pour me déguiser ainsi en dame, 10 mois durant lesquels j'ai multiplié les heures de travail, découvert des besognes nouvelles, pris sur mon sommeil pour mettre les traductions doubles, enfin une de ces folies de jeune fille dont on s'étonne ensuite d'avoir été capable. On se dit, ai-je été bête tout haut ? Et tout bas, quel dommage ! Ce fut si bien lancé, sur un si joli accent d'ironie tendre, que je regardais cette étrange fille avec une espèce d'admiration sur laquelle elle ne se trompa guère. Elle n'aurait pas été femme si elle n'avait pas pris un temps pour jouir du petit effet qu'elle me produisait. Puis, écartant un peu ses paupières, soulevant ses sourcils et plissant son front avec une expression triste, comme découragée, « Ce fut par une adorable après-midi de juin que je me mis en campagne, » reprit-elle. « J'avais attendu 2 semaines, une fois le détail de ma parure tout entier organisé, par superstition. Je voulus voir un présage de réussite à mon projet dans le bleu du ciel, le vert des arbres et le clair du soleil de ce jour-là. Me voyez-vous descendant du train à Chaville et m'engageant sous les branches, le long des étangs, après avoir demandé ma route à un enfant qui passait ? Il y avait des oiseaux qui chantaient tout le long du chemin, des fleurs dans les herbes, et je rencontrai 2 couples d'amoureux qui erraient dans l'ombre des jeunes arbres. Je ne savais rien, ni si Jacques était dans sa maison de Vélizy, ni même où était cette maison, ni s'il y vivait seul, mais je savais bien que j'étais très jolie avec ma robe grise, mon chapeau clair, mes petits souliers, et que je lui plairais si je le rencontrais, et je ne doutais pas de cette rencontre. Vous allez dire que je suis vraiment par trop négresse avec mon teint pâle. À cette époque-là, je croyais à ma chance. Ma chance, oui, j'y croyais comme à mes 20 ans, comme à mon désir, comme à tant de chimères. Quand j'étais toute petite, là-bas, en Amérique, nous habitions au bord de l'océan. Les voiles des bateaux que montaient les pêcheurs du pays étaient teintées de rouge. Chaque matin, je me mettais à la fenêtre, je comptais celles des voiles qui étaient en mer et qui faisaient des points lumineux sur le bleu des vagues. À chacune, j'attachais une espérance. Celle-ci me représentait un cadeau que j'aurais dans la journée, cette autre une promenade où l'on me conduirait. Aujourd'hui, je n'ai pas plus de points lumineux à mon horizon qu'il n'y a de voiles teintées de rouge sur ce ciel. Ils sont tous éteints. Mais par la belle après-midi d'été où je traversais le bois de Chaville, celui qui dansait devant mes yeux était si rayonnant. Et en même temps que j'espérais, j'avais si peur. Une timidité si folle, aussi folle que ma démarche, faisait trembler mes jambes sous moi. Je n'étais pas sûre, une fois arrivée, de retrouver une seule des phrases que j'avais préparées pour les réciter à mon grand homme. Et j'allais pourtant, jusqu'à la minute où j'aperçus, au bout d'une allée, le petit clocher d'une église, des toits couverts de tuiles, c'était Vélizy. Un passant m'indiqua la maison de M. Jacques Molland, j'étais arrivée. Je ne sais pas si je vivrai bien vieille, et je ne le souhaite pas. Gladys Hervé, ouvreuse dans un théâtre, ou Gladys Hervé, avec de petites rentes parmi des chats, des chiens et dans un peignoir de flanelle, ou Gladys Hervé, jouant à la dévote en province, aucune de ces perspectives ne m'attire. Nous devons mourir jeunes, nous autres. Je trouve que ça fait partie de la profession, comme de savoir porter la toilette et plaisanter avec du chagrin plein le cœur. Et même si je devais être aussi décrépite un jour que les vieilles des petits ménages, je suis sûre que je n'oublierai jamais cette villa, ensevelie à demi sous le lierre, la ligne des rosiers dans le jardinet qui l'a précédée, et moi, à la porte, regardant à travers la grille et n'osant pas sonner, dans ma belle robe où je me trouvais à la fois jolie et gauche, coquette et maladroite. C'étaient ces rosiers dont il était parlé dans la fameuse lettre de mon cher roman. Vous vous souvenez ? Elles et moi, mes roses et ma grâce, nous fanerons-nous, mon amour, sans que tu nous aies respiré ? Et puis, quand elle dit... J'y suis revenue dans notre maison où je meurs du mal de regret. Mais je l'aime, ce mal, car c'est le regret qui donne une forme au bonheur. Ces phrases de l'héroïne de cœur brisé chantaient dans ma tête comme j'étais là, respirant à peine et folle d'émotion. Qu'allait-il arriver de mon beau songe ? Que me dirait celui à qui je venais apporter une si naïve, une si tendre admiration ? Enfin, j'eus la force de tirer la chaîne de la cloche et un jardinier parut, presque aussitôt, coiffé d'un grand chapeau de paille. « Monsieur Jacques Molland !»« Il est à Paris et Monsieur Alfred aussi, me répond l'homme. »« Quel Alfred ? Sans doute un ami. J'insiste. » »« Et croyez-vous qu'il rentre cet après-midi ? » ?»« Je n'en sais rien, fait le jardinier, mais je vais demander à madame. » Et sur la porte de cette maison, que je venais de contempler comme un sanctuaire, j'aperçois une femme assez grande, assez jolie, en cheveux blonds noués à la diable sur le derrière de la tête, en matinée blanche et un arrosoir à la main. Le jardinier lui parle. Elle me dévisage. Je n'entends pas ses paroles. Que m'importe ? Et que m'importe que l'homme vienne me dire que M. Molland sera là vers les 5 heures ? Avais-je été sotte ? Il vivait avec une maîtresse, tout simplement, et c'était la seule chose à laquelle je n'eusse pas pensé. Mon Dieu, que j'ai pleuré dans le train en m'en retournant ! J'en ai gâté ma robe. Elle était si fragile. Un déjeuner de soleil comme mon beau roman. Et vous n'avez pas écrit à Jacques ? Vous n'avez pas cherché à le revoir ? Jamais, fit-elle, et par ce côté superstitieux que je vous ai dit. C'était joué et perdu. Et puis, à quoi bon lui écrire puisqu'il n'était pas libre ? Ah, cette femme que j'avais aperçue une minute, avec sa bouche canaille et ses yeux effrontés, non, ce n'était pas la compagne que j'avais rêvée au poète de cœur brisé. Mais puisqu'il vivait avec elle, il l'aimait. Comment l'eussais-je cru capable de vivre avec une femme sans amour ? Et cet amour nous séparait plus que la distance, plus que nos conditions sociales, plus que sa gloire et ma pauvreté. Je n'eus pas beaucoup de temps, d'ailleurs, à donner aux tristesses de mon roman avorté. Ma sœur tomba gravement malade, elle mourut. Je rencontrai quelqu'un qu'il eût mieux valu pour moi ne jamais connaître. Mon sort changea, je pris un amant et je devins ce que vous savez. Ne croyez pas qu'à travers les aventures de mon existence, j'ai oublié cet étrange premier amour qui ne ressemblait à rien de ce que j'ai senti depuis. Je continuais de lire tout ce que Jacques écrivait. J'avais des amis qui le connaissaient, qui parlaient de lui devant moi, qui en disaient du bien, du mal. Moi, je me taisais. Je ne disais même pas mon impression de ses nouveaux livres. Pour lui et pour ses œuvres, j'ai toujours eu ce sentiment de pudeur qui fait qu'on évite de prononcer le nom de la personne que l'on aime trop devant quelqu'un à qui l'on ne saurait faire comprendre pourquoi on l'aime. D'ailleurs, que pouvait-il résulter d'une rencontre entre un homme tel que lui et la femme que j'étais devenue ? Je suis un peu artiste en toutes choses et en souvenirs comme dans le reste. Je ne voulais pas gâcher mon pauvre ancien rêve en le transformant en une vulgaire intrigue de galanterie. Non, je n'ai jamais rencontré Jacques, et si j'ai un désir au monde, c'est de ne le rencontrer jamais. » Elle avait prononcé ces derniers mots avec une émotion si évidente que je demeurais sans lui répondre. Tandis que nous causions, les tables du jardin s'étaient peu à peu dégarnies de leurs convives, la musique des tziganes avait cessé de jouer, et sans doute, nos amis commençaient à trouver que la gaieté de Glédis manquait à l'entrain du dîner, car Figon parut à la porte de la terrasse avec ce sourire à demi contraint du jaloux qui ne veut point avouer sa jalousie. « On peut entrer ? » fit-il en frappant contre la vitre. « Je viens tout de suite, » dit Glédis. « 5 minutes encore. »« Vous entendez ? » ajouta-t-elle en s'éventant d'une façon nerveuse. Et tandis que des bravos accueillaient la nouvelle rapportée par Figon que nous allions reparaître, « Il faut que j'aille faire mon métier, mais j'ai un grand service à vous demander. »« Si c'est possible, c'est fait, » dis-je en parodiant le mot célèbre. « Si c'est impossible... »« Ne plaisantez pas, » interrompit-elle vivement. « Vous me feriez regretter d'avoir parlé. »« Pardon. » Et elle me regardait avec une espèce de soumission câline. « Mais cela me tient au cœur un peu plus qu'il ne faudrait. Je vous ai dit que j'avais eu la coquetterie de mon sentiment pour Jacques. Je ne voudrais pas que ce sentiment fût tout à fait perdu. Votre ami a des moments bien tristes, des heures toutes noires, je l'ai trop vu dans ses livres. Il ne croit guère aux femmes. Il a dû en rencontrer une très mauvaise. Eh bien, je voudrais qu'un jour, mais un jour où il n'aura pas envie de rire, vous lui racontiez qu'il a été aimé sans le savoir, et comment, et que celle qu'il a aimée ne le lui dira jamais elle-même, parce qu'elle est une pauvre Gladys Hervey. Seulement, vous me jurez de ne pas me nommer. Je vous en donne ma parole, lui dis-je. Ah, que vous êtes bon, fit-elle. Et par un geste d'une grâce infinie, où reparaissait sans doute ce sang noir qui coulait dans ses veines, elle me prit la main, et sans que j'eusse pu me dérober à cette caresse, qu'heureusement personne ne vit, elle me la baisa, mais déjà elle s'était échappée de la terrasse pour entrer dans la salle du restaurant, où Machaut, plus excité que d'habitude par la boisson, se tenait debout, son habit ôté, sa puissante musculature visible sous la toile de sa chemise, et il criait à Christine Antoux en lui montrant une chaise. « Allons, assieds-toi là et n'aie pas peur. 50 louis, que je la porte deux fois de suite à bras tendus. Qui tient le pari ?»« Jamais, jamais !» criait Christine en mettant la table entre elle et l'athlète. « Il a bu deux bouteilles de champagne à lui tout seul et je ne sais combien de verres de fine. Je tiens à ma figure, moi. » C'est mon gagne-pain. Brandy, whisky, me demandant l'anglomane toré qui me tendit les deux flacons. Il était resté seul à table, tandis que Saveuse et Figon assistaient debout et en riant à la discussion entre Christine et Machaut. « Moi, je n'ai pas peur, » s'écria Gladys. « Laisse-moi la place, Christine. » Elle s'assit sur la chaise près de l'Hercule, qui, s'arc-boutant sur ses jambes, très rouge, empoigna un des barreaux. « Vous y êtes ? » demanda-t-il. « All right, » fit Gladys. « Une, deux, » dit le géant, « trois. » Et il tenait la chaise droite devant lui, avec la jeune femme dessus, qui, toute gaie, nous envoyait des baisers comme une écuyère de cirque, et quand il eut remis à terre parmi les bravos, elle me dit, à mi-voix, avec un sourire un peu triste, « Vous voyez bien qu'il ne faut pas me nommer à Jacques. » Pauvre beauté ! Comme elle m'avait dit que l'appelait un de ses amoureux. Quand je rentrais chez moi, passablement troublé par le brandy et le whisky chers à Toré, j'essayais en vain de me persuader qu'elle m'avait, pour parler comme Christine Henroux, fait monter à l'arbre, un arbre en fleurs, mais un joli arbre de mensonges tout de même et de mystification. Si c'était une comédie, elle l'avait jouée divinement, avec un tel accent de sincérité. Mais son charme de naturel, la visible spontanéité de ses gestes, son regard et son sourire, tout me confirmait dans cette idée que, pour une fois, il fallait admettre comme vraie une confidence de femme, moi qui ai passé ma vie à me défier de celle que j'aurais le plus passionnément désiré croire. Pour tout dire, je trouvais un charme d'ironie à ne pas trop mettre en doute le récit de Gladys. Il y a pour un misanthrope une volupté particulière à découvrir la fleur du sentiment le plus délicat chez une créature, et cette volupté est justement l'inverse de la joie que nous procure la rencontre d'une vilenie chez une de ces femmes au fier profil, aux attitudes idéales, aux discours supérieurement méprisants, comme il en foisonne dans le monde. Cependant, je doutais de cette histoire davantage à mesure que je m'éloignais du coin où elle m'avait été débitée. Ce fut moins la promesse faite à la maîtresse de Figon que ce doute même qui me poussa lorsque je rencontrai Jacques Molland, 6 ou 7 mois après le dîner des Champs-Élysées, à lui raconter le discret et romanesque amour dont il avait été l'objet. Je voulais savoir si Gladys ne lui avait pas fait faire la même commission par d'autres, si elle ne lui avait pas écrit, que sais-je. Voilà qui est singulier, me dit Jacques. Je me rappelle parfaitement. À Vélizy, vers 1876-77. Je me trouvais là avec Paco et sa maîtresse, Sidonie, la blonde, tu ne l'as pas connue? Elle et mon domestique m'ont parlé d'une femme très élégante qui était venue me demander une après-midi que j'étais sortie. Et c'était celle-là? J'espère que tu vas me donner son nom et son adresse, ajouta-t-il en riant. J'y vais de ce pas. J'ai donné ma parole de ne pas te la nommer, répondis-je en secouant la tête. Ce que Jacques venait de me dire, en m'attestant la véracité de Gladys, au moins sur un point, achevait de rendre cette fille si intéressante à mes yeux que je me serais considéré comme le dernier des hommes si j'avais trahi sa confiance. « Tu ne veux pas parler ? » insista-t-il. « Et tu t'imagines que c'est pour autre chose que pour m'avoir chez elle qu'elle t'a conté ce joli roman ? Allons, quand Goncourt aura fondé son académie, je te ferai donner le grand prix Gobert s'il y en a un. » Ce mauvais jeu de mots fut tout ce que lui inspira cette douce et triste aventure dont je m'étais fait l'interprète, puis il se mit tout de suite à me détailler sa dernière bonne fortune avec une femme titrée et riche. « Pauvre beauté !» me disais-je en pensant à Glédis. « Pauvre dupe » aurais-je dû dire sans doute en pensant à moi. Mais quoi ! M'eût-elle encore joué la comédie, je dirais tout de même « Pauvre beauté !» Paris, février 1888.